science alors ?
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligent, which is the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir?
Éprouvette et Belot-Côtelet. Bonsoir, il est 19h et vous écoutez en direct Science Alors, l'émission scientifique de Radio Campus. Comme tous les mois, Jean-Marie Cécile et moi-même explorons un thème en compagnie de nos invités. Aujourd'hui et pendant une heure, nous allons plonger dans un univers qui a inspiré de nombreux écrivains de science-fiction.
Alors, vous avez peut-être vu à la télévision ce jeune athlète sud-africain, Oscar Pistorius, qui, amputé des deux jambes, court, équipé de prothèses de carbone qui ressemblent à des sortes de lames. Et lorsque cet Oscar Pistorius demande à concourir dans des compétitions réservées aux valides, eh bien, la communauté sportive se met à examiner l'équité de performance obtenue par un humain technologisé, où l'homme et la technologie ne font plus qu'un, puisque Oscar Pistorius lui-même se définit comme la chose la plus rapide sans jambes. Alors, au-delà des questions liées à la compétition sportive, on comprend que ce qui se joue dans cette affaire, c'est bien la délimitation de la frontière entre l'humain et la machine. Technologie de l'information et de la communication, biotechnologie, nanotechnologie, technologie appliquée à l'industrie médicale, des machines de plus en plus complexes pénètrent et transforment l'univers domestique, professionnel, les relations sociales, mais aussi les corps. Les compétences humaines, aussi bien corporelles que cérébrales, sont remplacées, prolongées, augmentées, performées par des machines de plus en plus perfectionnées et qui témoignent d'une capacité créatrice sans cesse renouvelée. Rien d'étonnant donc à ce que les machines nourrissent encore aujourd'hui un imaginaire foisonnant, que l'on songe à la littérature, au cinéma ou bien encore à la BD. Un imaginaire peuplé de mythes, de rêves et de craintes qui est réactivé à chaque fois que l'on soulève cette question des rapports entre l'homme et la machine. Car la frontière est parfois mince entre l'espoir de progrès et d'émancipation suscité par l'invention de nouvelles machines et le risque d'aliénation qu'elles font encourir. Moulinex libéra la femme dans les années 60 et licencia 30 ans plus tard celle qui fabriquait les mixeurs et autres robots ménagers qui étaient précisément censés les libérer. Objet de peur et de désir, les machines contribuent en tout cas à interroger notre définition de l'humain, du temps, du langage, des relations sociales, ainsi que notre conception de la valeur du travail.
C'est toutes ces questions que nous parlerons avec nos invités. Donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Hélène Chanal, enseignant-chercheur en robotique de production. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Bertrand Nouaille, professeur de philosophie.
Bonsoir.
Comme dans chaque émission, vous découvrirez de nombreux extraits sonores tout au long de cette heure. Mais tout de suite, on retrouve Jean-Marie et l'énigme mathématique. Science alors !
Tout à fait, Claire, merci de m'avoir passé le micro. Bonsoir. Alors, l'énigme mathématique, effectivement, elle n'est pas aujourd'hui non plus dans le thème de l'émission. À chaque fois, c'est la petite chronique un peu différente. Et alors, aujourd'hui, je vais vous parler de temps. Alors, l'énigme, c'est la suivante. Comment minuter 9 minutes avec un sablier de 4 minutes et un sablier de 7 minutes ? Voilà. Il s'agit de mesurer 9 minutes, mais malheureusement, on n'a pas à notre disposition un sablier qui contient le bon nombre de grains de sable. Alors, du coup, il faut se débrouiller avec un de 4 minutes et un de 7 minutes. Vous avez toute l'émission pour réfléchir à la question. Vous pouvez bien sûr nous appeler au 04 73 90 52 61. Et alors, le gagnant de cette fabuleuse question gagnera le plaisir de partager avec nous un verre après l'émission à une terrasse clermontoise.
Voilà, proche des studios. Donc précipitez-vous sur votre téléphone. Bien alors, en attendant, donc, nous allons introduire le débat en écoutant deux extraits sonores. Alors, le premier extrait que nous avons choisi de vous faire écouter, c'est un extrait du film de Bruno Muel, Avec le sang des autres. Alors, Avec le sang des autres, c'est le dernier film des groupes Medvekin, hein, ces groupes donc, de cinéastes et d'ouvriers qui s'emparaient de la caméra pour raconter donc, l'expérience ouvrière. Extrait dans lequel vous entendrez un ouvrier spécialisé, un OS, Christian Gourouge, qui travaillait à l'époque chez Peugeot à Sochaux, et donc qui parle de la machine. Et puis, juste après, j'ai interviewé l'historien Tanguy Perron. Tanguy Perron, c'est un historien du mouvement ouvrier et du cinéma, qui nous parlera justement de ce texte dit par Christian Corouge sur la machine.
Devant nous, il n'y a rien. Il n'y a rien. La promotion, non, il ne faut pas y compter. Ce qui est dur, en fin de compte, c'est d'avoir un métier dans les mains. Moi, je vois, je suis ajusteur. J'ai fait 3 ans d'ajustage. Pendant 3 ans, j'ai été promu à l'école, dans mon CET. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait? Au bout de 5 ans, je ne peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je ne peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses. Et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends? T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne, Bruno. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve. Tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur, la chaîne. Moi, maintenant, je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je puisse...
Science alors. Éprouvette et velours clé.
Tanguy Perron, quand on entend le texte de Christian Corouge dans Avec le sang des autres, donc qui raconte vraiment la violence de la machine, la violence faite au corps, faite à l'esprit, en fait, on peut se demander si c'est dans la tradition des films militants de parler ainsi des machines.
Des machines et des hommes, non, pas du tout. Hein. Ça marque une rupture dans l'histoire du documentaire et l'histoire du cinéma militant qui se nourrissent l'un l'autre, en sachant que pour dire très vite et grossièrement les choses, il y a des questions techniques et idéologiques qui sont liées. C'était avant, on donnait la parole à des dirigeants, c'était souvent pas synchronisé, et on valorisait le groupe. Des groupes ouvriers, identifiés, souvent masculins, et souvent qui exerçaient un métier de force, et souvent d'ouvriers qualifiés. Donc ça pouvait être des métallos, des dockers, des mineurs. Dans le groupe des métallos, donc on favorisait les ouvriers qualifiés, et non pas les OS. Déjà, il y a une grande différence.
Oui, parce qu'il faut préciser que Christian Corouge, lui, il est OS.
Bien sûr, il est OS, il travaille à la chaîne. En fait, Christian Corouge, qui faisait partie des groupes Medvedkin, jeune ouvrier, révolté, qui menait aussi une espèce de guerre de classe au sein de son syndicat pour que les OS soient mieux représentés, mieux écoutés, qui dénonçait les conditions inhumaines du travail des OS, thème qui perçait depuis les années 70 chez les catholiques, chez l'extrême gauche, au sein de la CGT et du Parti communiste, un peu plus lentement, mais ça, c'est un thème qui venait. Et lui était... bien que militant en CGT, ardent militant en CGT, trouvait que les OS n'avaient pas leur place, n'étaient pas assez écoutés. Et aussi, en tant qu'individu, il voulait prendre la parole. Et il avait, comme beaucoup d'ouvriers, il était très conscient des problèmes d'expression, difficultés à s'exprimer, et il le dit très bien, ces difficultés à s'exprimer, à cause de l'abrutissement par le travail. Et en fait, Bruno Muel, qui a un rôle vraiment créateur et important, l'incitait, et Bonfanti aussi, je crois, le preneur de son, à écrire. Il n'a pas réussi à écrire, donc on lui a dit « enregistre-toi ». Et il s'est enregistré d'une nuit, il a donné cette VHS, une petite cassette pardon, à Bruno Muel qui en a été bouleversé et qui l'a mis en illustration d'un magnifique travelling sur les murs de l'usine. Et c'est ce moment de cinéma, qui est un très beau moment esthétique aussi, qui est extrêmement émouvant pour cette parole et très précise, fera peut-être Corouge mal voir par certains de ses camarades, parce qu'il y a une espèce de pudeur ouvrière, dit comment c'est que tu parles de jeu, de caresser sa femme et tout ça. N'empêche que ça va à la fois marquer le documentaire, mais aussi l'histoire sociale. C'est un dernier point sur lequel j'aimerais intervenir. En fait, ce texte va être publié dans Libération. À cette époque-là, c'est un journal projet extrême gauche fondé par des maoïstes, et ce texte publié va marquer dans Libération, va marquer les esprits et va marquer Michel Pialoux, le sociologue, et la femme de Bruno Muel va mettre en contact Corrouge, Christian Corrouge, l'ouvrier OS avec le sociologue Michel Pialoux, et ça va devenir des travaux magnifiques sur la classe ouvrière. Christian Corrouge va s'exprimer, va être interviewé dans Actes dans la recherche en sens social, et ça va enclencher une enquête admirable de Corrouge puis de Stéphane Beau sur la classe ouvrière. Vous voyez qu'à partir d'une parole ouvrière, ça déplace des montagnes et des monuments de la recherche.
Alors, retour en studio donc avec nos invités Hélène Chanal et Bertrand Nouaille. Alors, peut-être une réaction par rapport à l'extrait donc, de ce film avec ce beau texte de Christian Corrouge et le commentaire de Tanguy Perron.
Je vais commencer.
Moi, Hélène Chanal,
étant un petit peu du domaine, alors il est clair que ces témoignages-là sont en effet... on va dire l'effet actuel quand on a travaillé sur une chaîne, c'est pas illogique. Sauf que justement la robotisation dans l'industrie est là pour simplifier le travail, le rendre moins pénible et éviter ces maladies qui sont issues du travail. Donc je pense que c'est la logique dans laquelle on est maintenant, c'est cette simplification du travail.
D'accord, parce que donc il faut rappeler que ce film date de 1974. Bon, alors pour la petite histoire, Christian Corrouge a pris sa retraite l'an dernier. Les entretiens entre cet ouvrier et le sociologue Michel Pialoux ont été publiés l'année dernière chez Agone, un très très beau livre. Il a pris sa retraite l'an dernier, il est resté ouvrier spécialisé toute sa vie. Bon. Dans son livre, il ne témoigne pas d'une très grande amélioration en fait, des conditions de travail, mais plutôt d'une transformation. Bertrand Noé.
Alors, moi, j'aimerais réagir par rapport aux extraits en replaçant peut-être le rapport machine-humain dans un horizon plus large, dans la mesure où l'homme est également un vivant. Ce qui signifie que la machine étant dans son environnement, il réagit aussi en tant que vivant. Et donc, il faut savoir que nous ne sommes pas dans un rapport passif vis-à-vis du milieu dans lequel nous sommes. Et il se trouve qu'on peut tout à fait interpréter l'environnement industriel comme un environnement physique dans lequel l'homme agit, donc l'ouvrier agit en tant que vivant, et où la machine va également interagir avec lui. Ce qui signifie que dans cet extrait assez émouvant, le rapport de la machine à l'ouvrier est un rapport conflictuel, puisqu'il perd à la fois des normes, il y a une perte des normes sociales puisqu'il n'arrive plus à parler, il a peur, donc il y a une désocialisation et voire même une déshumanisation dans le sens où il n'éprouve plus d'émotion vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de sa famille. Donc là, il y a une perte du sens de ce qu'est son existence, de ce qu'est sa vie. Mais par ailleurs, il y a aussi une perte de normes vitales, puisqu'il le dit également, il a mal aux mains. Donc c'est-à-dire qu'ici, la machine va venir interagir par rapport à au rapport au corps qu'il éprouve. Ceci dit, effectivement, il ne faut pas voir la machine comme un ennemi, mais il faut essayer de voir la relation entre l'homme et la machine dans une sorte de dynamisme dialectique et de voir dans quelle mesure la machine... peut aider, favoriser le travail de l'homme, et dans quelle mesure également, tout en cherchant à l'aider, il n'y a pas peut-être des conséquences perverses que nous ne voyons pas tout de suite, et que l'ouvrier, lui, va voir du simple fait qu'il a interagi avec la machine. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici à interroger ce que l'ingénieur ou ce que le conceptualisateur de la machine pense, et ce que ensuite au niveau de l'expérience de l'ouvrier, ce qu'il en découle.
C'est vraiment intéressant cette question, et Hélène Chanal, vous participez en partie à la conception de ces machines. Est-ce que vous avez des discussions justement avec les gens qui les utilisent, les outils que vous imaginez pouvoir être développés? Est-ce que vous avez cet échange?
Alors forcément qu'il y a, on va dire, un échange. Alors nous, comme on est des fois à la phase de chercheur, cet échange, on l'a avec les entreprises, mais via les ingénieurs, pas directement via les ouvriers. Et après, c'est plus une formalisation qu'ils nous expriment. Mais nous, on est plus dans la démarche de répondre à un besoin, une tâche que doit faire la machine, que tout de suite à l'interaction avec l'homme. Puisqu'après, c'est plus des démarches qu'on appelle d'ergonomie, où il y a des règles qui sont dictées par rapport à cette ergonomie, ce lien avec l'homme.
Et ces règles, elles évoluent au fil du temps? Parce que j'ai cru comprendre, justement, si on a compris cette interview de 74, on avait la sensation que ce n'était pas au centre de préoccupation des concepteurs de machines à ce moment-là, l'ergonomie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus présent?
Alors, plus présent qu'en 1974, je n'étais pas encore
ce que je voulais dire.
Mais y a des, dans certains groupes, maintenant, il y a des services spécialisés dans l'ergonomie, justement pour essayer de diminuer les arrêts de travail liés au traumatisme du travail. Et justement, maintenant, toute nouvelle machine qui doit équiper une entreprise doit passer par ces services, doit respecter certaines normes. Alors après, dire que le respect de toutes ces normes simplifie la vie de l'ouvrier, oui, au point qu'il n'ait pas de douleur, ça, je ne pense pas.
Parce qu'en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce que dit Corouge, c'est que... Alors bon, voilà, il parle de ciment et donc on sent bien la dépossession, mais comme vous le disiez, cette dépossession, elle n'est pas seulement physique en fait, hein, elle est vraiment, on a l'impression d'un lien presque charnel en fait avec la machine. Il y a une dépossession aussi de l'ordre de l'esprit qui est vraiment une aliénation. Et du coup, est-ce que Bertrand Noy, vous vouliez dire.
Oui. Alors, il faut aussi se remettre les choses dans le contexte. Donc, ce film, ce sont des militants d'extrême gauche, enfin, qui sont liés à, sont des, ce que j'ai cru comprendre, ne sont pas des liés au communisme, etc.
En fait, non. Justement, en fait, c'est assez mal vu par les militants communistes. D'accord. Et la CGT. Okay. En fait, ils interviennent vraiment en leur nom personnel, même si Corouge a été CGTiste.
Donc c'était juste parce qu'en fait, il y a un grand penseur du rapport machine-homme qui est Marx. Donc je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de sa réflexion. Et en fait, il faut quand même nuancer également son approche de la machine. C'est simplement, c'est-à-dire que dans les années 60, 70, peut-être les communistes avaient encore peut-être une approche encore marxiste, marxienne de ce rapport homme-machine. Donc Marx, a analysé effectivement le rapport de l'ouvrier à la machine comme un rapport d'aliénation, c'est-à-dire donc que la machine rend l'homme étranger à lui-même et le dépossède de son produit, et le rend même étranger à sa propre, au propre rythme biologique qui sont les siens. C'est-à-dire que Marx va dire, c'est par l'intronisation des machines que d'une part il va pouvoir y avoir du travail de nuit, puisque les machines en sont insensibles au rythme biologique, donc le travail de nuit commence par le machinisme. C'est aussi par l'intervention des machines qu'il va avoir le travail des enfants, puisqu'il ne s'agit plus, la force des hommes étant remplacée par les machines, et les machines demandant de l'entretien, et parfois de l'entretien assez fin pour aller dans les rouages, pour mettre de l'huile ou que sais-je. Du coup, on va demander aux enfants, qui ont des petites mains, d'aller entretenir ces machines. Donc, il y a donc ce rapport, Marx a analysé dans sa théorie de la machine, dans le Capital, au chapitre 14, si ma mémoire est bonne. Donc tout ce rapport-là de renversement, de dépossession de la vie humaine par la machine. Mais ce qui se passe, c'est qu'au XXe siècle, il y a une réappropriation, il peut y avoir une réappropriation de la machine par l'homme. Et nous, on a des témoignages aussi d'ouvriers, notamment d'ouvriers du secteur automobile, où il y a un ouvrier face en lui disant « Mais cette machine, finalement, comment vous interagissez avec elle ?» Et l'ouvrier répond « Mais finalement, certes, elle fait le travail à ma place, mais il faut bien quelqu'un pour la contrôler et pour vérifier qu'elle ne tombe pas en panne. » Donc, c'est-à-dire que cette dépossession que Marx a analysée, l'ouvrier, finalement, peut se réapproprier la machine en disant « Si la machine continue à fonctionner, c'est encore grâce à moi qui veille à ce qu'elle continue à fonctionner. » Après, toute la question étant, par rapport à un ouvrier travaillant à la chaîne et par rapport à un ouvrier peut-être qui va avoir une des connaissances techniques précises pour faire fonctionner la machine. Ouais.
Alors, on vient d'évoquer donc plusieurs questions autour de la machine industrielle. Et ce que je vous propose de faire, c'est on va écouter un morceau de musique. Et puis ensuite, on passera à la deuxième partie de la discussion. Cette fois-ci, on parlera d'interface homme-machine un peu différemment. Juste après l'extrait d'Emily Jolie, eh bien, on écoutera une interview que j'ai faite de Jean Véronis, mais je vous expliquerai tout à l'heure.
Tu t'appelles?
A440.
Est-ce que tu me trouves belle?
Ah, vraiment charmant.
Dis, où c'est chez toi?
Sur la planète Fa.
C'est très loin d'ici.
Non, ma galaxie n'est pas loin d'ici. À 1 million d'années-lumière de ta petite terre.
Qu'est-ce que vous y faites?
Nous, on fait la fête.
Ah, c'est fantastique.
Et toujours en musique.
Dis, où c'est chez toi?
Sur la planète Fa.
C'est très loin d'ici.
Non, ma galaxie n'est pas loin d'ici. à million d'années-lumière de ta petite terre. Je suis un fils du solfège, je monte la gamme et je redescends. Dans mes poches il y a des bémols, des dièses, des temps et des contretemps. Et je suis marié à une portée, noir sur blanc qu'elle est jolie. Son prénom c'est Symphonie.
Comment tu t'appelles?
À 440.
Est-ce que tu me trouves belle?
Ah, vraiment charmante.
Emmène-moi chez toi.
Sur la planète phare?
Oui, c'est ça.
Je t'emmènerai un jour si tu veux, mais pour l'instant profite de ce que tu as sous les yeux. Je suis un fils du solfège, je monte la gamme et je redescends. Dans mes poches il y a des bémols, des dièses, des temps et des contredents. Adieu, Émilie, je vais être parti. Symphonie m'attend là-haut, avec do, ré, mi, fa, sol et la si do.
Alors, tourne la page.
Science alors! Éprouvette et velours côtelé.
Votre domaine de recherche, c'est le traitement automatique du langage. Alors, qu'est-ce que ça signifie en quelques mots?
Bah écoutez, c'est ce que peuvent faire les machines sur le langage de l'homme, et vous en avez des exemples absolument quotidiens. Quand vous vous connectez sur Google, que vous tapez quoi que ce soit, même pour rechercher une image ou une vidéo, vous tapez des mots. Et à partir de là, vous avez l'exemple magnifique que tout est langage, sur le web en particulier, et que pour accéder à l'information, il faut traiter le langage des humains. Alors ça peut être sous des formes assez simples, histoire de mots-clés, etc. Mais même ça, c'est déjà relativement compliqué. Vous avez sans doute remarqué que les recherches de Google partent parfois dans des directions que vous n'avez pas du tout prévues, mais simplement parce que la machine ne vous a finalement pas compris. Et si on arrivait à améliorer ça, et il y a plein d'autres secteurs, je pense à la reconnaissance vocale, par exemple sur les téléphones, etc., qui est pour l'instant un petit peu folklorique, si vous avez pu apercevoir certains produits. Mais ça, si ça marchait réellement, alors là, ce serait une grande avancée, je crois, pour, je dirais pas pour l'humanité, c'est un peu grandiloquent, encore que, je crois que ça pourrait changer pas mal de choses dans notre quotidien.
Alors, au fil du temps, il y a eu beaucoup d'évolutions de la technique, disons. Est-ce que les humains, ils se sont adaptés, ou ils ont adapté leur manière de communiquer avec les machines, parce qu'il y avait cette évolution technique?
Ben, l'humain s'habitue, c'est l'humain qui s'habitue à la machine, c'est absolument évident. Vous en avez des exemples sur les moteurs de recherche dont je parlais à l'instant. Au tout début de Google, et même avant Google, puis il y avait AltaVista, il y a eu d'autres moteurs avant Google, les gens tapaient un mot-clé. Moi j'ai eu des discussions avec les concepteurs de moteurs de l'époque, et ils disaient, bon, parce que c'est compliqué, si vous voulez, de faire des recherches à plusieurs mots-clés, ça prend du temps, les recherches sont plus coûteuses en termes de machines, etc. Ils disaient, oh, mais pourquoi s'embêter avec deux, trois mots-clés? Les gens, ils n'en tapent qu'un. Donc ils tapent chien, chat, télévision. Mais c'est plus du tout vrai. On a vu au fil du temps les requêtes qui deviennent de plus en plus longues. Là, les gens, maintenant, tapent 4-5 mots parce qu'ils savent, ils ont appris que ça allait affiner la recherche et que ça allait leur donner de meilleurs résultats. Donc c'est un exemple trivial, si vous voulez, mais de l'adaptation des gens aux machines. Il y en a une autre que tout le monde connaît, notamment si vous avez un public relativement jeune qui nous écoute, les téléphones qu'on appelait pas encore smartphones, mais pour envoyer des SMS. Au début, il n'y avait rien du tout, on tapait, puis on faisait plein de fautes. Et on tapait en texto, vous savez, en écriture un petit peu abrégée, etc. Et puis, progressivement, on a vu apparaître des systèmes, le T9, là, pour prédire les mots. Ben, les gens se sont adaptés à ça. Puis, comme ils ont vu qu'il y avait plein d'erreurs, ils ont retrouvé d'autres stratégies pour contourner les erreurs que faisaient les trucs de prédiction. Et puis, maintenant, vous avez des smartphones où vous avez carrément tout un clavier. Donc, il n'y a plus besoin de taper 4 fois sur la touche 3 pour avoir la lettre Q, etc. Donc c'est encore une autre stratégie. Donc les gens s'adaptent en permanence aux outils dont ils disposent. Et puis tant mieux, l'être humain est quand même plus intelligent que la machine. Dans l'autre sens, les machines essaient de s'adapter. C'est ce qu'on appelle la recherche, bien sûr. Mais c'est relativement long, c'est relativement difficile. Pour en revenir à la reconnaissance vocale sur les téléphones, il y a des sites entiers qui sont consacrés à tourner en dérision le dernier système qu'a sorti Apple qui s'appelle Siri. Parce que ça marche pas, si vous voulez, ça marche très mal. Donc là aussi, on a vendu du rêve et c'est pas au point. Quand est-ce que ça le sera? Je sais pas, ça fait plus de 50 ans qu'on travaille sur ces choses-là, vous voyez, donc il faut être très très modeste.
Est-ce que ça veut dire aussi peut-être qu'avec les nouvelles technologies comme les smartphones qui arrivent, qui étaient peut-être pas imaginées auparavant, eh bien on a changé nos directions de recherche sur ces questions d'interface homme-machine, on s'est plus engagé sur les besoins immédiats et alors ces utopies à long terme ont un peu échappé?
Non, c'est juste... Je ne pense pas que ça ait échappé. La preuve, c'est que le système Siri de reconnaissance vocale, les gens essaient encore de travailler là-dessus. Non, je pense simplement que c'est l'occasion fait le larron, vous voyez. C'est-à-dire que si on avait la techno, ça serait super. Vous discuteriez avec votre ordinateur, vous discuteriez avec votre téléphone, etc. Quand vous êtes en voiture, par exemple, si le nombre de fois je me suis dit, si je pouvais dire à mon GPS, je vais 24 rue de la Pompe à Trouville, et qu'il le fasse, ou que je puisse lui dire vocalement « Non, reprogramme, je ne veux pas passer par l'autoroute », des choses de ce type, ça serait formidable. Si la techno était faisable, les gens l'adopteraient immédiatement. Donc c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est immensément difficile. Et alors pourquoi c'est un grand mystère philosophique et si complexe. On a quand même fait des progrès en physique ou dans d'autres disciplines. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire de tels progrès sur le langage humain? Ça, c'est quand même un mystère quelque part. Est-ce que le langage humain, c'est pas finalement la seule chose qui nous distingue des animaux? Enfin, il y a eu des discussions philosophiques sur ça, mais peut-être, vous voyez, et ça en dit long.
On vient d'écouter donc une interview que j'ai faite ce matin de Jean Véronis, qui travaille donc et chercheur en traitement automatique du langage. Vous l'aurez compris, il est beaucoup intéressé par les technologies liées à l'Internet. C'est là son domaine d'expertise, disons. Donc voilà un exemple d'interface où on progresse pour essayer de faire dialoguer les humains et les machines. Finalement, on se rend compte de ce qu'il a décrit que les machines, on les a adaptées au fil du temps pour qu'elles correspondent aux besoins des humains, mais les humains s'adaptent aussi à ça. Sur ces questions, alors bien sûr, Hélène Chanal, je suis fatigué. vous travaillez aussi à la conception de machines, pas dans le même contexte. Et est-ce que vous avez la même question? Donc Jean Véronis vient de décrire qu'ils ont mis 50 ans à commencer tout juste à adapter leurs outils à ce que les humains avaient besoin. Est-ce que vous constatez les mêmes difficultés dans un contexte industriel?
Je pense que les échelles sont un peu plus courtes dans un contexte industriel, puisqu'il y a tout ce qui est économie qui pousse un petit peu, et aussi on est moins ambitieux. C'est-à-dire
Pensez qu'ils sont ambitieux, alors, les gens qui font du traitement automatique du langage?
C'est que dans un contexte industriel, on va avoir besoin de résultats sous 3 ans, et encore 3 ans, ça va être long. Donc on va essayer d'aller plus directement, là on est sûr d'avoir des résultats.
Est-ce que vous avez un graal un petit peu, comme justement là dans les gens qui font du traitement automatique du langage, ils parlent de discuter. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, un moyen de communiquer entre les ou d'échange entre les humains et les machines qui serait l'utopie des gens qui travaillent à l'automatisation des gestes?
Justement, moi, je dirais on n'a pas tant de graal que ça. Moi, mon graal, c'est d'arriver le mieux possible à répondre aux exigences des industriels, à leurs attentes, mais tout en leur faisant comprendre, comme pour le langage, qu'on ne pourra jamais leur donner des solutions avec des temps très restreints.
D'accord. Et alors, vous, les outils machines que vous concevez, les robots, finalement, c'est des tâches plutôt automatisées, prédéfinies à l'avance, qu'ils vont réaliser. C'est plus.
Alors, il y a deux types de tâches. Il y a les tâches prédéfinies, automatisées. Donc là, on parle d'automatisation. Ça va être refaire toute la machine, va être dédiée à faire un type de tâche toute sa vie, entre guillemets. Et après, vous avez la robotisation, où là, eh bien, on vient faire des tâches qui vont pouvoir évoluer puisque le robot va pouvoir s'adapter aux évolutions d'un produit, aux évolutions de ce qu'on va lui demander et aux évolutions des technologies qui seront à disposition.
Et comment il s'adapte ?
Alors, comment il s'adapte ? Bah, par une intervention de l'humain qui va pouvoir le programmer, qui va pouvoir lui faire modifier sa configuration, et ça par un programme, par le suivi d'un programme.
Donc en fait, le rêve humanoïde des écrivains de science-fiction, d'une machine qui ressemblerait à un humain, et puis qui on parlerait et puis s'adapterait, c'est complètement là, clairement utopique. Alors
après, on peut avoir des adaptations, mais ce ne sera pas exprimé, on va dire, sémantiquement. Ce sera exprimé avec un programme, et ce sera assez borné.
D'accord. Alors, je remercie. Pour compléter ça, donc Jean-Véronice venait d'expliquer que peut-être ce qui séparait le plus l'humain de la machine, c'était la capacité à parler. Il a même cité les animaux aussi. Bertrand Nouaille, c'est quelque chose qui vous parle, cette question-là, de différence entre les humains et le reste des espèces mouvantes ?
Oui, alors, effectivement, donc ça, c'est une question philosophique. C'est un des topos philosophiques par excellence. Donc ce rapport entre vivant et machine a en fait été travaillé dès l'origine de la philosophie par Aristote, puisque étymologiquement l'organe, ça veut dire l'instrument. Donc ça veut dire que Aristote, déjà, bien qu'il était, il mettait en évidence l'idée que les êtres vivants, à la différence de l'inerte, possédaient une âme, malgré tout, il cherchait à comprendre le mouvement de certains vivants à travers le modèle de la machine. Et évidemment, le grand philosophe qui a permis, disons, ce rapprochement entre vivant et machine, c'est Descartes. Donc Descartes qui a simplement cherché à comprendre les organismes vivants comme des machines, ce qui signifie donc pour Descartes effectivement un des critères définissant l'homme est le langage, par différence des animaux. En revanche, j'aimerais quand même revenir sur une phrase de
Jean-Véronis.
Merci. Puisqu'il dit « c'est l'humain qui s'habitue à la machine ». Et en fait, un petit peu à la fin, il l'envisage, mais il n'envisage pas la réciproque. C'est-à-dire que si c'est l'humain qui s'habitue à la machine, c'est tout simplement aussi parce que la machine... elle est et ça, c'est Georges Canguilhem au XXe siècle qui l'a bien montré dans un article qui s'appelle Organisme, machine et vivant, je crois, dans la connaissance de la vie, qui a bien montré que si les philosophes ont pensé le vivant sur le modèle de la machine, c'est d'abord et en premier lieu parce que la machine a été, au départ, constituée, construite, pensée sur le modèle du vivant. Et que les premières machines, comme les automates, des choses comme ça, on a cherché à copier des fonctions vitales, des fonctions humaines, donc, enfin des fonctions vitales ou des fonctions de vivant. Donc ce qui signifie ici que le smartphone, des choses comme ça, c'est pas tant l'homme qui s'habitue à la machine, il faudrait même plutôt renverser la proposition, ce sont plutôt les machines qui petit à petit s'adaptent aux fonctions humaines, s'adaptent aux capacités humaines, et le chercheur, en fait, ne fait que coller à des normes vitales, à des manifestations, à des fonctions vitales humaines, pour essayer simplement que ces fonctions vitales aillent plus loin, etc. Mais ce rapport vivant-machine, c'est pas le vivant qui copie la machine. À l'origine, c'est d'abord l'inverse. C'est d'abord la machine qui copie le vivant.
Mais par exemple, si on pense à Chaplin qui se retrouve à devoir, sur une chaîne de production, aller de plus en plus vite, incessamment, sans cesse.
Bien sûr. Alors ça, c'est le... Là, on retrouve l'aspect classique que Marx avait bien compris, c'est-à-dire que donc ce sont les machines qui vont donc les machines vont être poncées sur le modèle des vivants, mais de telle manière qu'elles vont amplifier. Donc, on en revient à l'édito, de telle manière qu'elles vont pouvoir amplifier les fonctions vitales, qu'elles vont pouvoir les pousser plus loin. Elles ne se fatiguent pas, elles peuvent travailler la nuit, elles font les choses plus vite, elles font les choses de manière beaucoup plus précise. Elles sont beaucoup plus précises dans le geste, dans le faire, etc. Les ordinateurs, la puissance de calcul des ordinateurs est éminemment supérieure à celle des hommes. Donc évidemment, les machines vont pousser la logique du vivant plus loin que ce que le vivant est capable de faire. C'est ce qu'on appelle classiquement la technique. La technique n'est rien d'autre faire ce que la nature ne peut pas faire par elle-même. Donc c'est suppléer à la nature, mais en utilisant les lois de la nature. Ce qui peut se passer, c'est qu'en poussant finalement dans ce rapport entre machine et vivant, et la machine en allant plus loin que l'homme, que les fonctions de l'homme, à un moment donné, il peut se faire que l'homme va s'aliéner, puisqu'il va vouloir suivre la machine, donc aller au-delà de ce qu'il peut d'un point de vue vital, d'un point de vue existentiel. Et à ce moment-là, on en revient au début de notre émission, où l'homme va avoir le sentiment d'une perte du sens de son existence face à la machine qui peut plus que lui, qui peut mieux que lui. Et en oubliant que si la machine peut mieux que lui, et comme vous l'avez rappelé, c'est clairement parce que la machine est programmée par l'homme. Il faut ne pas oublier qu'au départ, il y a toujours de l'homme.
Alors, peut-être à propos de ces limites, hein, justement, des capacités de la machine, limites au niveau des fonctions du langage, Jean-Véronis l'a rappelé. Moi, je me demandais, par exemple, si on pouvait inventer une machine capable d'avoir de l'humour, de faire des blagues. Ça, est-ce que justement, c'est pas typiquement quelque chose qui distingue une machine, même très perfectionnée, même qui envisage des tas de configurations de l'homme? Alors, Hélène Chanal, et vous pensez à concevoir une machine qui fasse des blagues?
Alors, si les blagues, je les connais et que c'est moi qui lui apprends, là, elle saura les faire.
Mais alors, du coup, c'est un petit peu comme quand on fait toujours la même, c'est moins drôle.
Voilà. Après, il y aura un souci d'adaptation au fil du temps.
Mais Bertrand Noé.
Alors, là aussi, il faut bien penser à la réciproque. Qu'une machine puisse faire des blagues, c'est possible, puisqu'on va lui apprendre à faire des blagues, on va la programmer. En revanche, qu'une machine sache reconnaître ce qui est de l'ordre d'une blague et de ce qui est de l'ordre d'un ordre... qu'on lui donne, là, je pense qu'il y a vraiment, pour le moment, une frontière. Je ne suis pas sûr que la machine puisse reconnaître, elle, quand on lui parle, le smartphone, je ne suis pas sûr qu'il reconnaisse qu'on est en train de faire une blague. Il reconnaît des mots, et le sens des mots, c'est-à-dire l'esprit des mots, pour le moment, n'est pas perçu par la machine. Donc là, effectivement, c'est une limite dans l'interface langage machine. Que le langage puisse donner des ordres à la machine, c'est le téléphone, etc. C'est le mythe du GPS à qui on va parler, qui va se réinitialiser grâce à la parole, à la rigueur, ça peut être envisageable. Par contre, je ne suis pas sûr que le GPS... que la machine soit pour le moment, on soit capable pour le moment de lui enseigner à avoir un rapport avec le sens des mots. Donc l'humour, le trait d'esprit, l'absurde, la machine, ça pour ça, elle ne le connaît pas, quoi.
Et justement, donc, c'est plutôt chouette que vous parliez de ça, puisque ça permet à nos auditeurs d'avoir envie d'aller écouter le bonus qu'on va mettre sur notre site, puisque j'ai pas eu l'occasion dans l'émission de passer la totalité de la discussion que j'ai eue avec Jean-Véronis, et on évoque avec lui justement cette question de l'adaptation de la machine au trait d'humour ou à l'ironie, par exemple, qui est un autre trait qui est pas simple à comprendre, même pour des humains, par exemple malentendants. C'est des trucs qui sont un peu complexes à saisir si on n'a pas cette culture. Et donc on aborde un peu cette question-là avec Jean-Véronis, donc je vous invite à aller consulter le bonus sur le site. Si vous nous écoutez, voilà, vous aurez l'occasion d'en découvrir un peu plus. On va, si ça vous convient, écouter tout de suite un court extrait. C'est l'extrait d'Isaac Asimov. Alors, c'est en langue anglaise, parce que c'était j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, c'était un écrivain de science-fiction américain. Et puis, il a défini, dès les années, ça a commencé en 1927, tout ce qui est fait aujourd'hui, notre culture de ce que sont les robots et les machines automatiques.
The first law is as follows. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Rule number three, a robot must protect its own existence. After all, it's an expensive piece of equipment, unless that violates rules one or two. A robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life.
Voilà, donc c'était Isaac Asimov qui reprenait pour la télévision américaine les trois lois qu'il a définies dans ses romans et finalement tissent toute la suite des robots et puis même ensuite la manière dont les roboticiens parfois comprennent le robot. Alors pour retranscrire en français ce qu'il a dit, c'est quoi ? C'est l'idée un petit peu, donc c'est des lois qui seraient imposées aux robots si les robots devaient avoir une conscience, ils devraient suivre ces trois lois. Alors la première loi dit quoi ? Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, permettre qu'un humain soit exposé au danger. La loi numéro 2, elle dit « Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. » Et enfin, la troisième loi dit « Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la deuxième ou la première loi. » Voilà. Donc, c'est un peu de la science-fiction, mais est-ce qu'on peut se demander, est-ce que les gens qui s'intéressent à la robotique aujourd'hui s'intéressent à ces lois-là ou c'est complètement abstrait ? Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène ?
Alors, moi, c'est la robotique, on va dire, particulière, qui est la robotique de production. Alors forcément, il ne faut pas que le robot nuise à l'intégrité de l'humain. On va dire que ça, c'est une règle de base. Et donc, il y a des sécurités qui sont mises, mais on ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas d'accident. Donc après, c'est aussi avec la formation des gens, que les gens sachent comment le robot réagisse, comment il faut qu'il soit par rapport à leur robot pour leur intégrité, qui aussi assure cette intégrité-là. Et après, que le robot agisse dans l'intérêt de l'humain, bah ça, c'est un peu, c'est pour ça qu'on met en place des robots, mais on va dire qu'il fait pas ça de façon consciente.
Ces questions qui ont traversé donc la science-fiction depuis le début du XXe siècle, est-ce que vous pensez, Bertrand Noailles, que c'est quelque chose qui aujourd'hui pourrait influencer encore notre manière de concevoir ces outils, ces interfaces, ou alors est-ce que ça fait partie de l'histoire de comment on voyait la technique et les robots dans les années 50, par exemple ?
Alors, donc Isaac Asimov, si vous voulez, donc à travers ses cycles de romans de science. Fiction a finalement produit une sorte de mythologie qui a été reprise dans les films de science-fiction, qui serait que les robots sont des sujets de conscience, sont des êtres doués de conscience, et donc sont des sujets, et à ce titre-là, ces trois lois posent la question du rapport, alors étrangement, non pas du rapport du robot à l'humain, mais derrière ces trois lois, c'est est-ce que les robots, dès l'instant où ils ont une conscience, est-ce que du coup, ils doivent être soumis à des lois morales ? C'est-à-dire donc, autrement dit, dès l'instant où il y a une conscience, il s'agit donc de se poser la question du bien et du mal. Donc, si on se place dans l'absolu et dans l'absolu d'une science-fiction, on peut penser à un film comme 2001 ou l'Odyssée de l'espace, où vous avez donc l'ordinateur qui va... finalement décider de prendre le contrôle du vaisseau. Et donc là, il s'agit bien de la question de dès l'instant où le robot est capable de penser, est-ce que des lois morales s'appliquent à lui ? Il me semble que pour le moment, en tout cas ce qui concerne la robotique de production, la question n'est pas la question du bien et du mal, c'est plutôt la question d'une part de l'efficacité d'autre part la question de l'efficacité de la machine elle-même et la question de l'efficacité de la machine couplée à l'homme. Il n'est pas certain que l'ouvrier ait un rapport moral avec la machine. En revanche, il peut avoir un rapport de souffrance vis-à-vis de la machine, mais pas un rapport pas un rapport moral avec la machine. Donc ces lois rentrent vraiment dans la science-fiction au sens où Là, Isaac Asimov pousse la chose jusqu'au bout. Imaginons que des robots aient une conscience. Qu'en est-il des lois morales de la société humaine?
Donc ça veut dire que finalement, la parole, ça ne suffit pas à déterminer ce que sont les hommes. Il y a aussi la conscience qui est derrière.
Alors ça aussi, c'est une question très très compliquée. Pour le moment, il faudrait distinguer la parole de le langage de la communication. Il est certain que les animaux ont des systèmes de communication. Il n'est pas sûr qu'ils aient un langage, au sens où il n'est pas sûr que leur système de communication soit aussi plastique que le langage humain. En revanche, est-ce que les vivants, et notamment les mammifères supérieurs, ont un rapport avec le bien et le mal? Ils ont certainement un rapport avec la souffrance. Ce qui, une nouvelle fois, élargit le problème d'Isaac Asimov, en fait, à des questions d'écologie. Même si on a l'impression qu'on s'éloigne du sujet, je pense que c'est lié. Si les animaux sont des êtres souffrants, est-ce que je peux avoir un rapport moral? Est-ce que j'ai des devoirs envers des animaux qui sont des êtres souffrants? Ce qui rejoindrait la même chose. Si les robots ont des devoirs envers les hommes, est-ce que les hommes doivent avoir des devoirs envers les robots? Et donc, c'est la question des films de science-fiction.
En fait, c'est intéressant le débat auquel vous contribuez, parce que finalement, on se pose la question de la différence entre l'humain et la machine, donc par rapport aux fonctions langagières. On se pose des questions morales, de conscience. Et moi, j'ai l'impression que finalement, les gens qui conçoivent des machines ou alors qui s'en inspirent pour de la science-fiction, en fait, prennent ces machines comme prétexte pour poser des grandes questions à l'humanité. Bertrand Noailles, Hélène Chanal, vous vouliez...
Moi, là, ça... je laissais intervenir mon interlocuteur.
Évidemment, il y a deux... l'humanité peut être interrogée... la question de l'humain, de ce que c'est qu'être homme, peut être interrogée de deux manières. Par le bas, par rapport au reste des vivants. Qu'est-ce que c'est qu'être homme par rapport aux vivants? Est-ce que nous avons une spécificité, nous les hommes, par rapport aux vivants? Et peut être interrogé par le haut, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être homme vis-à-vis de cette production de la machine et du robot? En sachant que la science-fiction, finalement, a été précédée par un philosophe qui est Lamétri, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'homme-machine » au XVIIIe siècle, et qui dit simplement la chose suivante. Il n'y a peut-être aucune raison que les fonctions de l'esprit, donc la pensée, la conscience, les émotions, les sentiments, ne puissent pas être explicables simplement par des agencements complexes de la matière. Donc ça veut dire que c'est Lamétri, en fait, qui est l'ancêtre de Isaac Asimov. C'est Lamétri qui dit... peut-être que la complexion de notre corps et notamment de notre cerveau, donc en fait aujourd'hui c'est le cerveau, fait que finalement si nous avons une pensée, c'est peut-être parce que nous avons un cerveau. Donc la question aujourd'hui, c'est la question du réductionnisme, et donc c'est lié au robot, c'est-à-dire si les biologistes prouvent ce qui est déjà ils sont loin de faire, si les biologistes prouvent que la pensée est réductible au fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire à des processus purement physico-chimiques, il n'y a aucune raison en droit, dans l'absolu, aucune raison théorique de ne pas un jour pouvoir que la machine puisse produire les fonctions de l'esprit, si l'esprit est réductible à des processus physico-chimiques. Seulement, l'organe du cerveau est pour le moment éminemment complexe, dépasse infiniment la complexité des machines, et donc c'est simplement un rapport de degré. Pour le moment, le cerveau est trop complexe pour qu'on puisse le reproduire par la machine, mais peut-être qu'un jour, ça sera possible. Donc la question, en fait, c'est un débat sur le réductionnisme. Est-ce que l'esprit est réductible au fonctionnement du cerveau, ou bien est-ce que l'esprit est encore autre chose que du physico-chimique?
Et si on s'intéresse peut-être plus prosaïquement au monde du travail, est-ce que réfléchir aux machines, c'est pas aussi réfléchir, par exemple, à ce que c'est que le temps de travail, à ce qu'on veut faire, en fait, dans le monde du travail? Est-ce que toutes ces questions, elles sont présentes à votre esprit, Hélène Chanal, quand vous travaillez?
Alors, on va dire, passer par les machines, c'est quand même aussi de détruire un peu ce temps de travail, puisque l'idée de passer par les machines, c'est gagner de la souplesse dans ce temps de travail. C'est travailler la nuit, travailler le week-end. Et à partir du moment où il faut des êtres humains pour que ces machines puissent tourner, c'est aussi de dégrader leurs conditions de travail d'un côté. Mais de l'autre, c'est aussi simplifier leurs conditions de travail, simplifier la manière de faire un travail, et puis aussi, on va dire, contribuer à garder un certain niveau de travail dans nos pays. C'est-à-dire garder cette innovation, garder cette robotisation pour garder une fabrication française. Donc on gère à la fois des problèmes économiques, des problèmes sociaux. C'est beaucoup plus large que juste des conditions de travail.
Bon, merci pour ces discussions qu'on a abordées pendant ces environ 20 minutes de discussion. Beaucoup de choses au sujet de la machine, depuis la machine qu'on connaît aujourd'hui jusqu'à celle rêvée par les auteurs de science-fiction et les philosophes. Je vous propose de finir cette émission en écoutant un morceau qui s'appelle en anglais « Libérer le robot ».
Vous êtes sur Radio Campus, vous écoutez toujours Science Alors, et là on vient d'écouter ensemble Listen to the Future. Pendant ce temps, vous avez peut-être eu le temps de trouver la solution de l'énigme de Jean-Marie. Donc je te laisse la parole pour nous donner la solution.
Science Alors!
Merci Claire. Alors je vous rappelle la question que je vous ai posée en début d'émission. Comment minuter 9 minutes avec un sablier de 4 minutes et un sablier de 7 minutes? Alors malheureusement, je crois que personne n'a appelé. C'est ça Laurent?
Personne n'a appelé.
Personne n'a appelé. Alors est-ce que dans les studios, quelqu'un a une suggestion sur la manière de compter 9 minutes à l'aide d'un sablier de 4 minutes et un de 7 minutes? Une proposition? Personne? Je vous raconte l'histoire? Laurent non plus ? Même pas Laurent.
Ah non, j'ai pas eu le temps avec toute cette bonne musique qui passait.
Alors, c'est très simple, je vous explique comment ça se passe. Alors, on commence à la minute 0, puis on va compter 9 minutes. Alors, dès le début, on retourne les deux sabliers en même temps, celui de 4 minutes et celui de 7 minutes. Alors, eh bien, le premier de 4 minutes finit avant celui de 7 minutes, bien sûr, on le retourne tout de suite. On retourne tout de suite le sablier de 4 minutes au bout de 4 minutes. Et puis, on fait de même quand le sablier de 7 minutes se retourne. Et quand, une minute plus tard, le deuxième sablier de 4 minutes se termine, on est à 8 minutes. Eh bien, à ce moment-là, une minute s'est écoulée dans le sablier de 7 minutes. Vous êtes d'accord ? Et alors, dans ce cas-là, on retourne le sablier de 7 minutes, il nous reste une minute qui s'écoule, et on obtient les 9 minutes proposées par l'énigme. Voilà, donc en jouant avec les deux sabliers, et en utilisant le reste de ce qu'il y a dans le sablier, eh bien on arrive à mesurer nos 9 minutes.
C'est très astucieux.
Et on passe tout de suite eh bien, à l'agenda, l'agenda qui cette fois-ci nous est proposé par Claire.
Merci. Alors, ce mois-ci, on va parler du cycle de conférences Façon de penser à la Maison des sciences de l'homme, donc, qui aborde ce mercredi 16 janvier le thème « Quelle offre de santé en 2030 ?» Donc, peut-être qu'ils aborderont le sujet des robots en médecine. Donc, c'est à 18h30 à la Maison des sciences de l'homme. Une autre conférence à signaler sur la géopolitique de l'eau, le 31 janvier à 20h dans l'amphi 2 de la Fac de Lettres à Gergovia. Et puis, ne manquez pas l'ouverture d'une nouvelle salle d'exposition consacrée à l'histoire des sciences au musée Lecoq à partir du 25 janvier. Et du 1er au 9 février, ce sera le Festival du court-métrage avec cette année une rétrospective consacrée aux sciences intitulée « Particules imaginaires ». Et donc, nous en parlerons en février dans notre émission « Science alors ». D'ailleurs, cette émission qui aura lieu le 11 février à 19h, nous aborderons dans « Science alors » les sciences et le cinéma. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur notre site internet sciencealors.fr. Vous trouverez également toutes les informations concernant cette émission et le bonus de l'interview de Jean Véronis. La sélection musicale de cette émission a été proposée par Jean-Marie et Claire, dont nous avons écouté alors la chanson de l'extraterrestre extrait du conte musical Émilie Jolie et Listen to the Future du groupe Free the Robot. Sur le plateau avec nous, nous avions ce soir Hélène Chanal et Bertrand Noailles. Nous avons écouté plusieurs interviews, Christian Corrouge dans un extrait du film « Avec le sang des autres ». Nous avons également entendu Tanguy Perron et Jean Véronis et une archive d'Isaac Asimov. À la réalisation ce soir, Laurent, merci. Et puis tout de suite sur Radio Campus, on retrouve Génération Manga.
Science alors !
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligent with its the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir ?
Éprouvette et velocotelée.